Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonjour, c'est l'heure des infos sur Radio Oméga. Journée internationale du travail au Burkina. Les syndicats ont remis ce matin leur plateforme revendicative au gouvernement à l'issue d'une marche à laquelle ont participé des centaines de travailleurs. À l'occasion justement de la fête du travail, rencontre avec un homme qui gagne sa vie en donnant de la dignité aux morts. Rigobert Ouédraogo confectionne et commercialise des cercueils. Comment vit-il son métier? Pas toujours bien perçu. Réponse dans quelques instants. En sport, nous parlons de la CAN U17 en Algérie. Les étalons entrent en jeu à partir de 17h ce soir. Chaban Kamara et ses camarades sont confiants. Le coach Brahima Traoré espère finir en tête de poule. Et puis, avec notre invité du jour, on parle du film documentaire et de son impact sur les populations dans un contexte de crise. Michel Zongo, promoteur de Koudougoudoc, fait aussi le bilan des 10 ans du festival consacré au documentaire. Madame, messieurs, bienvenue au journal sur Radio Oméga. Vous êtes aux infos sur la radio de l'information et vous faites bien. Bienvenue. Nous sommes le 1er mai, une journée dédiée aux travailleurs. De nombreux pays célèbrent aujourd'hui la Journée internationale du travail. À cette occasion, les syndicats réunis au sein de l'unité d'action syndicale ont remis ce matin leur plateforme revendicative au gouvernement. Ils ont rappelé que l'UAS s'est abstenu de mener des actions de revendication depuis 2 ans dans le souci de ne pas gêner la lutte contre le terrorisme. Plusieurs points sont contenus dans la plateforme revendicative remise au gouvernement, dont la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire burkinabé, les mesures contre la vie chère, l'accès au logement et à la terre, mais aussi le respect et l'élargissement des libertés, la promotion du travail décent et l'assainissement de la gestion des ressources nationales, ainsi qu'une véritable souveraineté nationale. La délégation a été accueillie par le chef du gouvernement lui-même, Apollinaire Kielem. Il était accompagné de plusieurs ministres, dont celui du Travail. Bassolma Bazier, lui-même issu du mouvement syndical, se félicite des succès engrangés par le gouvernement depuis 1 an. Il cite un exemple, entre autres succès, l'adoption de la loi sur la neutralité, le renforcement de la méritocratie dans l'administration publique, le remboursement des salaires abusivement coupés ou suspendus pour fait de grève, la restitution de toutes les décorations bloquées pour fait de grève ou encore la mise en place du bulletin de salaire électronique. D'autres réformes sont en cours selon Bassolma Bazier, notamment la revalorisation du salaire minimum légal, l'adoption d'un nouveau code du travail ou encore la relecture et l'adoption de la loi 081 relative à la fonction publique. Et puisqu'on parle de travail, celui de Rigobert Ouédraogo est particulier. Il gagne sa vie en contribuant à donner une dignité aux morts. Planches, marteaux et clous sont ses outils de travail. Il confectionne, vous l'avez imaginé pour certains, des cercueils pour aider à l'inhumation des corps. Une activité pas toujours bien perçue et pourtant nécessaire. À l'occasion de la fête du travail, Radio Oméga est allé à sa rencontre. Rigobert Ouédraogo raconte son métier dans ce reportage de Abdulaziz Zoulabou et Brigitte Yoda.
Nous sommes au quartier d'Apoya à Ouagadougou. C'est ici que Rigobert Ouédraogo, diplômé d'université en histoire et archéologie, a presque tout appris avec son frère il y a plus d'une trentaine d'années.
Les études universitaires, c'est beau, mais tu peux toujours apprendre quelque chose. Donc bien sûr, après l'université, j'ai habité avec lui et bien sûr, je lui donnais un coup de main dans la fabrique des cercueils.
Si d'aucuns voient de mauvais œil cette activité qui lui prodigue revenus à même d'offrir à ses employés qu'il appelle frères un salaire, pour Rigobert, c'est une passion.
J'avais des tantes, j'avais des oncles qui aussi étaient pratiquement dans la même pensée que ces personnes, qui n'ont pas aimé, qui m'ont dit non, tu as fait l'université, tu peux être professeur d'histoire géo, tu as fait l'école nationale de forêt, tu peux être un forestier. Pourquoi tu as laissé tout ça pour faire? J'ai dit non, c'est une passion. J'aime ce que je fais et je vais continuer dans les domaines.
Des cercueils, il y en a ici de toutes formes, tailles et couleurs. Fait en panneau, en bois rouge ou en bois blanc, les prix varient entre 65 000 et plus d'un million de francs CFA.
Lui, avec sa double ouverture, fait 980 000. Lui, il n'a pas de vitre, il fait 1750. À partir de là où je vous ai montré les vitres centrales, où on peut voir totalement tout le corps, là, ça fait du 520. Et derrière, ce que vous avez vu en bleu, en noir et dans les autres couleurs, ça fait 375 000. C'est bien vrai. Ça nourrit tous ceux qui sont derrière moi. Mais j'ai une autre conception de ce travail. J'évite d'être pro-esclave de l'argent.
Outre la confection des cercueils, Rigobert offre d'autres services de pompes funèbres. Et comme tout service, il n'est pas sans difficulté.
Pour ceux qui réellement s'approchent beaucoup de la mort, on est censé se dire que c'est un milieu où l'hygiène n'est pas totale. Vous êtes à même de ramasser n'importe quel germe, n'importe quelle bâtisse. Donc, quand quelqu'un vous dit que lui, il est dans le domaine, il n'a pas peur, il a menti. Et encore, c'est parce que nous sommes maintenant dans une société où le traditionnel ne joue plus. Sinon, je vous dirais qu'il n'est pas donné à n'importe qui de toucher certains corps. Nous offrons le service corbière. Nous offrons aussi, dans la préparation des tombes, il y a les dalles que nous pouvons vous offrir. Il y a l'IPN que l'on peut aussi vous donner. Au-delà de ça, il y a le service conseil.
Les tenanciers de pompes funèbres sont surtout sujets de sarcasme, insultes et mépris. Rigobert confie que ses enfants en ont souffert d'ailleurs.
Ma famille, ma femme, mes enfants sont souvent mal vus. Ils sont souvent ridiculisés, insultés, dénigrés à quelque part, parce que tout simplement leur papa est dans un domaine où on trouve qu'il est assis et qu'il attend que quelqu'un meure pour qu'il puisse avoir de l'argent.
Aujourd'hui encore, les services de pompes funèbres font l'objet de préjugés ou superstitions qu'il faut rompre, exhorte Rigobert, qui invite la municipalité à assainir le milieu. Pour lui, nul n'était son rapport à la mort, il s'agit d'un travail comme tous les autres.
Et Rigobert n'est pas le seul à porter le lourd poids de son travail, au sens figuré, mais aussi au propre, puisque des millions de travailleurs à travers le monde traînent des maux liés à leur travail. Des maladies professionnelles sont courantes et les plus récurrentes sont les TMS ou troubles musculo-squelettiques. Valérie Guéret s'est intéressée au sujet. Témoignage et avis de spécialistes dans ce reportage.
Baguette de soudure en main, c'est l'instant de dur labeur pour Salam Kabouri. Il lui faut au plus vite souder ce pot d'échappement pour un client. Un travail qui amène le jeune homme à garder cette posture pendant de longs instants. Soudeur, c'est le job qu'exerce Salam et bien des fois, tout au long de ses journées, il garde une posture non habituelle pour le corps humain. Des heures pendant lesquelles il est courbé ou il est dans des positions dignes de contorsionnistes, dommageables pour lui.
Je suis content de mon travail. Une fois que je rentre à la maison, je sens la fatigue. Pour cela, je prends des produits et le lendemain, je me sens bien. Mais le fait de rester courbé pendant des heures me donne des douleurs au dos.
Salam est loin de s'imaginer que ces douleurs ressenties en fin de journée sont étroitement liées aux exigences du travail qu'il exerce. En termes médicaux, c'est ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Et il en existe toute une panoplie. Pour savoir de quoi il s'agit, nous sommes allés au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo à la rencontre du chef de service médecine du travail. Avec lui, nous évoquons le cas de notre soudeur, Dr Gaston Kabouri.
Alors, il faut dire que la définition d'une maladie professionnelle est comprise comme étant toute maladie désignée dans les tableaux des maladies professionnelles et contracté selon les conditions décrites donc dans ce tableau. Alors, parlant de mon expérience, il faut dire que nous avons en tête ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques.
Les troubles musculo-squelettiques sont des maladies qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs. Ces maux proviennent d'un déséquilibre entre ce que le corps humain peut faire et ce à quoi on le contraint dans certains cas. C'est le cas de cette patiente qui a préféré garder l'anonymat. Elle souffre d'un trouble musculo-squelettique lié à son travail de bibliothécaire. Contrairement aux douleurs de dos de Salam, notre bibliothécaire souffre de douleurs dans le cou. Et cela fait 15 ans que son mal persiste.
Comme une maladie quelconque, je me suis levée un matin et j'avais des douleurs au cou, comme ce qu'on appelle communément torticolis. J'ai mis ce que j'avais sous la main, Vigibom ou je ne me rappelle plus quoi. 2-3 jours, ça ne passait pas. J'ai pris paracétamol, ça ne passait pas. Un soir, en voulant manger, je voulais mettre la main dans la cuillère dans ma bouche. Curieusement, c'est comme si quelque chose attrapait ma main. Je n'arrivais pas à mettre la main dans la bouche. Sur place, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est ? J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, ben, il faut aller en consultation. Et je suis allée en consultation, on m'a examinée, on m'a dit de faire une radio. Et c'est comme ça, je suis allée, il m'a fait les prescriptions, après il m'a dit d'aller voir un kinéthérapeute. Et c'est en échangeant que le médecin m'a dit, ce que vous souffrez est lié à votre travail.
Le phénomène n'est pas très connu, mais pourtant au Burkina, il existe des statistiques qui doivent alerter. Entre 2017 et 2021, près de 8 750 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ont été enregistrés. La prise en charge cumulée de ces cas a coûté près de 5 milliards sur la même période et aucun secteur d'activité n'est épargné par le problème. Dr Gaston Kabore, chef de service médecine du travail de l'hôpital Yalgado Ouédraogo.
Alors, il faut dire que sur le plan épidémiologique, tout le monde est concerné. Alors, au départ, on a plutôt considéré qu'il s'agit de ceux qui subissent un travail physique, qui sont plus exposés. Mais l'expérience a montré plus loin que, y compris ceux qui font du travail administratif.
Stress, espace de travail pas toujours approprié ou encore la pénibilité du travail sont entre autres les facteurs qui favorisent les troubles musculo-squelettiques. Et seule la prévention peut permettre de protéger dans ces cas précis et améliorer les conditions de travail. Docteur Anisha Savadogo, spécialiste en médecine du travail.
Pour la prévention primaire, cela va consister à déjà sensibiliser les travailleurs. Donc, si les travailleurs ont l'information sur quelles sont les conditions qui peuvent favoriser l'apparition des TMS, ils sont plus à même de prendre des précautions pour préserver leur santé.
Pour ces médecins, la fête de travail est une occasion belle pour sensibiliser. Docteur Anisha Savadogo.
Je souhaite qu'au Burkina Faso, les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs puissent s'améliorer, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, que ces travailleurs soient suffisamment sensibilisés sur les maladies professionnelles, sur ce qui peut causer les maladies professionnelles, afin que déjà à leur niveau, ils puissent adopter des comportements qui favorisent la protection de cette santé.
Docteur Gaston Kabore.
Le conseil que nous donnons toujours aux travailleurs, c'est que le travailleur est le premier responsable de sa santé. Donc, pour tout travail qu'on doit mener, on doit s'assurer de le faire dans les meilleures conditions.
Selon les estimations de l'OIT, dans le monde, environ 2 millions de personnes perdent la vie dans ces accidents de travail ou à cause des maladies professionnelles chaque année. Toujours au plan mondial, 160 millions de maladies professionnelles sont déclarées annuellement.
Retour sur le drame de Karma dans le Yatenga. C'est toujours la tristesse et l'amertume dans la région du Nord suite aux événements qui ont frappé le village le 20 avril dernier, faisant 147 morts selon le bilan établi par des ressortissants et rescapés. Ces derniers ont animé une conférence de presse samedi dernier à Waiguia. Notre envoyé spécial a pu approcher certaines victimes qui racontent leur vécu. Ils appellent également à l'aide Moumouni Tamboura.
Le regard perdu d'une innocence troublée. À 3 ans de vie, la colère des bourreaux de ses parents s'est déportée sur elle. C'est le symbole d'une violence inouïe qui a endeuillé Karma en cette matinée du 20 avril 2023. Les bourreaux, ce sont des militaires des forces armées burkinabées, indique sans détour Daouda Belem, l'un des porte-parole des ressortissants et rescapés. Cette fillette a vu sa tête frôlée par une balle sortie tout droit du canon de ses assaillants. À en croire les propos de sa mère, Sanata Belem.
C'était un matin, soudain, nous avons aperçu des militaires armés nous encercler. Certains nous ont dit de fuir, d'autres nous disent de ne pas courir, qu'ils sont venus pour nous sauver. Nous étions donc là à les observer. Entre-temps, ils ont vérifié nos CNIB. Et dans le checking de nos CNIB, j'ai su qu'ils ne sont pas là pour nous, mais contre nous. C'est ainsi qu'ils ont commencé à tuer les hommes. Et je suis partie pour me réfugier dans ma chambre avec ma fille. Et c'est là que le malheur est arrivé.
Car Ma est inconsolable. Le massacre n'a pas épargné Lassane Ouédraogo, âgé de 12 ans. Il verra ses parents tués sous ses yeux, lui-même blessé par balle au bras gauche. C'est la frayeur et la désolation sur son visage.
Un matin, nous sommes assis dans notre village. Les militaires sont venus avec des motos, des pick-up, et ils ont encerclé notre village. Ils ont ordonné à mon père et à ma mère et d'autres membres du village, parents, à présenter leur carte d'identité. Ensuite, ils les ont conduits sous un tamarinier et les ont tués. Après, ils sont revenus mettre du feu dans nos hangars et greniers. C'est dans les tirs que je me suis blessé.
Et ça ne s'arrête pas là. Moussa Belem a perdu lui, ses frères, lors de cette expédition attribuée aux militaires. Il soutient sa nièce de 5 ans, désormais orpheline des deux parents. Elle-même est victime d'une fracture à la jambe gauche. En tout, ce sont 147 personnes qui ont été tuées à Karma. Des victimes enterrées jeudi dernier dans 4 fosses communes, indiquent les ressortissants et rescapés. En plus, des hangars et greniers auraient été brûlés et des biens pillés, selon ces derniers, qui craignent des traumatismes. Ils demandent donc une assistance physique, morale et humanitaire pour faire face aux conséquences dramatiques de cette attaque.
Omega, l'international, la Turquie annonce avoir neutralisé le chef présumé du groupe terroriste État islamique. Le chef présumé de Daesh, nom de code Abu Hussein al-Quraishi, a été neutralisé lors d'une opération menée par le MIT, les services secrets turcs en Syrie, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une interview sur la télévision TRT turque. La veille, un journaliste turc avait rapporté l'information évoquant une opération dans la localité de Jandaris, dans le nord-ouest de la Syrie, une région contrôlée par la Turquie.
Omega Sport.
Et on parle football. Cannes, des moins de 17 ans, les étalons cadets se frottent aux aiglons du Mali à partir de 19h. L'enjeu est important pour les deux camps dans une poule réduite à 3 équipes après la suspension du Soudan du Sud. L'entraîneur de chaque pays se dit déterminé à donner le meilleur de lui-même. Bernabé Cabré nous en parle.
Mali-Burkina Faso, un match très important pour les deux équipes dans une poule réduite à 10 après l'exclusion du Soudan du Sud épinglée par les tests IRM. Ce soir au stade d'Annaba, Aiglonais et Étalon Cadet tenteront de bien entamer la compétition. L'objectif côté burkinabé reste le même, terminer leader du groupe C. Brahima Traoré, entraîneur de Burkina Faso.
Notre objectif c'était de gagner le premier match pour pouvoir aborder les autres matchs à venir. Gagner le premier match, terminer en tête dans cette poule et aller calmement en quart de finale. Voilà, donc l'objectif reste toujours le même, même que si ça devient encore plus difficile, parce qu'au lieu de 3 matchs, ça devient 2 matchs. Et le premier match est très très important.
Le Mali a remporté 2 des 3 dernières éditions de la CAN des cadets, celles de 2015 et 2017. Pour autant, l'entraîneur des Aiglonais, Soumaïla Koulibaly, ne se voit pas dans la peau de favori.
Clairement, nous, on n'a pas de pression parce que le chemin qu'on a fait pour ici, et puis voilà, bon, on est totalement libéré du jeu, notre chance. Et puis voilà, bon, c'est le pouvoir. Le football de jeunes, on ne peut pas dire qu'on est favori. Voilà, tout le monde peut gagner ce coupe-là. Bon, on espérait partir plus loin. Et puis voilà, si on pouvait gagner, et puis voilà, que Dieu nous donne aussi.
Burkina Mali, c'est ce soir à partir de 19h. Ce n'est pas la première fois que les deux équipes vont s'affronter. En 1999, le Burkina a battu le Mali en demi-finale 1-0 avant de perdre la finale 3-1 face au Ghana. 2 années plus tard, les Burkinabés se sont une fois de plus imposés 1-0 en phase de poule devant les Maliens. C'est en 2005 que le Mali va signer son premier succès 3-1 face au Burkina Faso lors de la CAN en Gambie en phase de poule. En 3 confrontations, le Burkina mène la danse avec 2 victoires contre 1 pour le Mali.
L'invité du jour.
Avec notre invité, il est question de l'importance du film documentaire et de son impact positif, l'impact positif qu'il pourrait avoir sur les populations, surtout dans le contexte sécuritaire burkinabé. Il s'agit de Michel Zongo, promoteur de Kudugu Doc, un festival de films documentaires qui fête 10 ans d'existence cette année. Il a refermé ses portes ce week-end et au micro de Brigitte Yoda, Michel Zongo. Michel Zongo revient sur les projections, les thématiques abordées et un bilan positif qu'il tire malgré les conjonctures économiques du pays. Entretien.
Michel Zongo, bonjour.
Bonjour.
Kudugu Doc a refermé ses portes ce week-end et l'événement a pu se tenir pendant 10 ans. Quel bilan faites-vous en une décennie d'existence?
10 ans, ça paraît beaucoup. Mais 10 ans, ça nous a aussi surpris parce que ça a vite passé. Alors, faire le bilan de 10 ans, ça peut être long, mais je veux juste donner trois grands points. Alors, quand on créait ce festival, notre première vision, c'était de faire de Kourou la capitale du cinéma documentaire et la promotion du film documentaire, du genre documentaire, qui pour nous est le parent pauvre, mais en réalité est le père du cinéma documentaire. Ça, je pense qu'on l'a atteint. Kourou donc est incontournable aux habitants de Kourou et même l'Afrique. Pour ne pas dire le monde, parce que c'est un événement qui s'inscrit dans l'agenda mondial du cinéma, des festivals de cinéma documentaire. La deuxième vision, c'était pour nous d'avoir une vision générationnelle, c'est-à-dire en arrivant à Kudugu pour faire ce festival, le genre documentaire est difficile pour le public. Alors, nous, on s'était dit qu'il fallait aller avec une stratégie, c'est-à-dire avoir une vision générationnelle qui consistait à montrer des films aux enfants et aux adultes en se disant que dans 10 ans, 15 ans, ceux qui ont 7 ans auront 17 ans, ceux qui ont 20 ans auront 20 ans, ceux qui ont 20 ans auront 30 ans. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gamins qui s'asseyaient devant l'écran pour regarder les films, c'est eux aujourd'hui qui montent pour débattre des films. Donc ça, c'est pour nous une vision complètement, un objectif atteint, parce que c'était de donner une éducation cinématographique aux habitants de la ville de Kourou, justement à travers sa jeunesse. Et ça, on a l'impression quand même qu'on l'a atteint. La troisième vision, c'était de se dire qu'on va susciter des vocations à travers les jeunes à Kourou et que à travers ce festival, qu'ils puissent avoir des gens qui ont envie d'embrasser le métier du cinéma. Ça aussi, ça s'est fait parce que de plus en plus de jeunes à Kourou commencent à travers les formations que nous avons données durant ces 10 ans. D'autres ont ouvert des studios parce qu'ils sont caméramans, d'autres commencent à réaliser des films, des quêtes. Donc voilà, pour nous, c'est une vision. Ces trois objectifs sont quand même atteints. Ça peut être notre bilan résumé comme ça.
Cette 10e édition, quels étaient les grands axes de ce 10e anniversaire? Quels sont les films qui ont été, les films documentaires qui ont été donnés de voir?
On a projeté plus d'une vingtaine de films qui sont venus de partout en Afrique. On a eu 4 sites de projection. Le QG qu'on appelle le quartier général, qui est la place publique du secteur 1, l'expermanence. Après, on a eu la cité universitaire face au texte. On a eu la cité des dragons, qui est aussi une cité universitaire. On a eu le lycée communal de Youlou, qui est un village à 5 km de Kourou, rattaché à la commune. Donc voilà, ça, c'est, on peut dire que c'est les axes forts du festival. Et en dehors de ça, chaque fois, on essaie de faire une innovation. On essaie aussi d'être avant-gardiste pour des questions qui concernent justement le cinéma et qui concernent juste l'humain. Et on a eu une masterclass sur l'intelligence artificielle. Quels seront les enjeux et les avantages de l'intelligence artificielle dans le domaine du cinéma dans l'avenir? C'était vraiment intéressant parce que on s'est retrouvé avec des professionnels, des étudiants.
Et on se demande comment est-ce que Monsieur Zongo a réussi à tenir cette édition. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour tenir cette édition dans ce contexte économique national et international difficile?
Depuis le début, nous avons inscrit un grand axe qu'on appelle résister pour créer et créer pour résister. Donc aujourd'hui, le contexte nous donne... Nous sommes complètement dans notre vision de ce contexte-là, parce qu'il fallait résister. Pour nous, tenir ce festival, c'est une forme de résistance. Là où il y a la vie, il faut qu'il y ait la culture. Voilà, donc pour nous, nous sommes aussi en guerre contre le terrorisme, parce que c'est une manière aussi d'éduquer la population, c'est une manière de lutter contre l'obscurantisme, qui est quand même... un fléau aussi dans nos pays. L'ignorance, j'ai toujours dit l'ignorance est un péché. Donc nous nous adaptons aux situations qui sont présentes dans notre pays. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de festivaliers qui ne sont pas venus. Il y a pas mal de nos partenaires aussi qui ne se sont pas associés cette année. Mais cela ne nous a pas empêché de se dire qu'on aura un format adapté à notre contexte. Donc c'est pour nous une expérience et nous trouvons que ça a été bien. La population, pendant les 5 jours, ont vu des films, ils sont sortis, et c'est ça qui est le plus important.
C'est ça qui est le plus important. Et comment se portent justement les films documentaires dans ce contexte sécuritaire au Burkina Faso?
Le cinéma, c'est des gens qui le font. Hein. Donc, si les gens se portent mal, le cinéma se portera mal. C'est au rythme de ce qui se passe dans notre pays. Mais les artistes ont toujours été en avant-gardiste. Tout ce qui nous tombe aujourd'hui, c'est des choses qui ont été dans des films il y a 10-15 ans. C'est qu'on n'est pas souvent averti. Voilà. L'artiste ou les cinéastes restent toujours dans leur contexte de créer.
Ils le font même dans les conditions difficiles. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir davantage les films documentaires, à votre avis?
À chaud comme ça, je n'ai pas une solution magique, c'est des réflexions. Mais je pense que déjà, par exemple, la télévision peut payer des films documentaires qui sont des films très proches de la population, déjà pour les diffuser. Les réalisateurs se battent pour faire les films. Mais l'autre question, c'est comment on les montre. Alors, la télévision sont des canaux, c'est-à-dire qu'il faut acquérir des films qui puissent susciter la réflexion, qui puissent montrer aux gens la réalité de leur quotidien, qui puissent les amener à changer leur réalité. Et ça aussi, c'est notre vision, ça. Nous, les réalisateurs, nous contentons de faire des films, alors il faut que la chaîne suive.
Michel Zango, merci.
Merci bien.
Voilà qui referme ce journal mis en onde par Adama Konaté, assisté de Bernadette Pagmogda. Je suis Abdoul Fattah Tiemtouré. Plaisir de vous avoir servi. Je vous souhaite un excellent après-midi à l'écoute de Radio Omega. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.
Radio Omega, l'info en direct.